Albert Sim, à la recherche de sa mère. Au retour du cimetière où il venait en compagnie de ses sœurs et de quelques voisins de conduire son père, brusquement emporté par une congestion cérébrale, le petit Guillaume Menaucourt annonça à sa grand-maman, sa bonne maman, qui était paralysée et ne bougeait plus de son fauteuil, qu'il était décidé à partir pour Paris et à se mettre à la recherche de sa mère. 3 semaines auparavant, celle-ci avait quitté son chétif logis de la rue des Grangettes, sur les hauteurs de Bar-le-Duc, et s'en était allée, d'après les conseils d'un médecin du quartier, demander au docteur parisien, au prince de la science, un allègement à d'intolérables douleurs, des maux d'estomac causés, croyait-on, par un cancer. Madame Menaucourt avait laissé ses 3 enfants, Guillaume l'aîné, âgé de 11 ans, et ses 2 sœurs, Alice et Léontine, sous la garde de son mari, alors en excellente santé, robuste, alerte et vaillant. Et voilà que la mort avait traîtreusement et d'un seul coup fait son œuvre et que les 3 enfants étaient soudainement devenus orphelins. « Il faut que j'aille chercher maman !» Telle est l'idée qui s'empara de l'esprit de Guillaume et la résolution qu'il annonça à sa grand-mère. Que pouvait la pauvre vieille impotente pour s'opposer à ce dessein? Elle-même comprenait bien la présence, combien la présence de sa fille était plus que jamais nécessaire à la maison, et s'alarmait et se lamentait de son silence. Depuis 15 jours, on n'avait reçu d'elle aucune nouvelle. Le lendemain, dès l'aube, Guillaume se mit en marche, emportant pour toute promenade la moitié de la miche de pain qui restait dans l'armoire. Une voisine, une malheureuse tisserande, dévideuse de bobines ou caribari, avait obligeamment promis de veiller sur la grand-maman et les 2 fillettes. La route au départ de Bar, tout au moins, courait à proximité du chemin de fer, et Guillaume n'avait qu'à la suivre, à suivre pendant 60 lieues. Elle portait d'ailleurs un numéro sur les plaques indicatrices et les poteaux de carrefour. C'était au début la route départementale numéro 1, mais notre jeune voyageur savait lire et possédait bon œil aussi bien que bon pied. Toute la journée, il marcha sans s'arrêter, et la nuit venue, on était en automne, en octobre, il s'avisa sur la chaussée une baraque de cantonniers, ce qu'il appelait une cabourette en son patois lorrain. Ayant constaté que la porte de ce réduit n'était que poussée, il y pénétra, tâta sous ses pieds et trouva une couche de paille qui lui servit de lit. Au petit jour, il reprit sa marche, mais il n'avait pas seulement bon pied et bon œil. Il avait aussi de bonnes dents, un fringant et vigoureux appétit que le grand air excitait encore. Et la veille, tout en cheminant, il avait dévoré son château de pain, épuisé toutes ses munitions. La faim commença bientôt à se faire sentir, à l'obséder et à le tourmenter de plus en plus. Au premier village que je traverserai, je me déciderai à demander du pain, murmura-t-il. Mais ce village venu ne se décidait pas, il n'osait pas. Et fermes et hameaux, bourgs et villes se succédaient, sans qu'il eût le courage de heurter à une porte ou d'accoster un passant pour implorer secours. Vers le soir, il se trouva à bout de force. Il avait des éblouissements, la tête lui tournait. Pour comble, la pluie, une pluie fine, drue et pénétrante, s'était mise à tomber. Il s'assit sur l'herbe du talus, se blottit contre un arbre. Si quelqu'un se fût alors montré, oh sûrement, il se serait enhardi, il aurait abordé, aurait fait appel à sa pitié. Mais il était en rase campagne, n'entendait aucun bruit de voiture, n'apercevait aucune lumière. Rien que la pénombre partout, le silence, le froid et la pluie. Il se leva et repartit. Une masse confuse de murailles et de toits apparut peu après à ses regards. C'était une ferme construite à peu de distance de la route. Il se dirigea à travers champs vers cette habitation et, remarquant une sorte d'appentis en planches adossées au mur extérieur, au pied de la tourelle d'un pigeonnier, il songea à s'abriter sous ce hangar. Mais en ce moment, des aboiements éclatèrent de l'autre côté du mur. Le chien de la ferme avait flairé sa présence. Il s'éloigna bien vite, craignant d'être découvert, pris pour un malfaiteur, et ne se sentant décidément pas le courage de demander, de mendier. La pluie, qui tombait plus fort, le contraignit à essayer encore de se rapprocher de l'abri qu'il avait entrevu, de s'en rapprocher tout doucement à menus pas. Mais le maudit chien connaissait son devoir et son métier, faisait bonne et soigneuse garde, et il se remit à japper de plus belle, sans discontinuer, jusqu'à ce que l'intrus levait le camp et gagnait le large. Une troisième tentative n'eut pas plus de succès et fut accueillie par le même assourdissant vacarme. Cette fois, la porte de la ferme s'ouvrit et une voix d'homme cria « Qui est donc là? Qui l'a ?» En même temps, Guillaume vit venir à lui un fort gaillard, nu-tête, qui l'interpella. « Que fais-tu là, toi, mauvaise graine? Allons des camps, et rudement !» Derrière l'homme, une femme s'avançait. « Quel est-ce gamin ?» demanda-t-elle. « Je sais pas, répondit l'homme. « Quelque jeune traînard, un de ces maraudeurs, qui se figure toujours à oublier quelque chose quand ils n'ont rien volé. » Mais Guillaume s'était fait violence, armé de tout son courage. « Madame, je vous en prie, murmura-t-il. « Parle, mon enfant. « Oui, dis-nous un peu qu'est-ce que t'as rôdé à cette heure-ci sur nos terres ?» repartit le paysan. « Clodion, ne rudoyez pas ce petit tio. Rentrez, vous lui faites peur, » ordonna la femme. « Tu n'es pas du pays, » reprit-elle. « Comment te trouves-tu là ?»« Je... un peu de pain, madame, » implora Guillaume. « Tu as faim, mais entre, p'tio. Viens manger d'abord, allez, nous causerons après. »«
Oh, vous avez de la bonté de reste, madame Lérine, vous vous occupez de ce vaurien, et si votre homme était là... »«
Mais taisez-vous, Clodon. Si mon mari était de retour, il serait le premier à... Allez, arrive, mon enfant, assieds-toi. »
Et la fermière, madame Léry, ayant ainsi imposé silence à son domestique, installa Guillaume devant la table de la cuisine, à proximité de la haute cheminée, où flambait un clair feu de fagot, et apporta à l'enfant une pleine assiette de soupe toute fumante.
« Mange, mon fils, ne te presse pas, passe si vite. Tu nous raconteras ensuite comment tu te trouves à la nuit dans nos parages. Mais pas si vite, tu vas t'étouffer. »
Le lendemain, Guillaume Ménocourt, reposé et réconforté, reprenait sa route. Après avoir un instant pensé à dissuader l'enfant de sa téméraire entreprise, Madame Léry s'était ravisée. Elle avait embrassé le vaillant petit homme, lui avait insinué sous sa bourse un énorme croûton de pain renfermant une tranche de lard, avait glissé dans sa main quelques sous. On n'est pas riche au village.
Et bon courage, Ptio, que notre Seigneur t'accompagne et qu'il te rende vite ta mère.
Merci, madame, oh merci, avait répondu Guillaume.
Et comme il s'éloignait, la fermière lui cria encore
adieu, bon courage, Ptio, et bonne chance.
Quand, après 3 jours encore d'efforts, de fatigue et de souffrance, Guillaume arriva à Paris et se présenta à l'adresse qu'avait laissée au sien Madame Menaucourt, rue de Crimée 82 à la Villette, la concierge lui apprit que la malade avait quitté la maison. L'ami chez qui elle était d'abord descendue et était entrée à l'hôpital Necker. Elle lui indiqua la direction de cet établissement.
Oh, nous n'en sommes pas tout près, mon petit ami. Tu te renseigneras en route. Adresse-toi toujours de préférence au sergent de ville. Ne crains pas de les questionner. »
Guillaume remercia la brave femme en lui promettant de se conformer à ses prudentes recommandations. Il longeait le canal Saint-Martin et cheminait sur le quai près du bord, quand, devant une passerelle, il hésita, voulut rétrograder. Mais à ce moment, il se sentit violemment heurté par un passant et il tomba dans l'eau. Lorsqu'il revint à lui, il se trouvait au milieu d'une grande salle étendue sur un lit de camp, dévêtu et enveloppé de couvertures. Plusieurs hommes, des sergents de ville principalement, étaient rassemblés au fond de la pièce. On parlait, on discutait.
« J'ai droit à la prime de sauvetage, monsieur le commissaire. À mes 25 francs, hein, je connais le tarif !»
clamait un individu sordidement accoutré de vilaine mine.
« Vous le connaissez même trop bien, le tarif !» riposta le personnage, accoudé sur son bureau qu'on venait de qualifier de « monsieur le commissaire ».« Vous êtes bien Jupiard Ernest, surnommé le rabouilleur ?»«
Oui, lui-même en chair et en os, monsieur le commissaire. »«
Déjà le mois dernier, vous êtes venu réclamer cette prime. C'était encore un enfant que vous aviez sauvé. »
« Ben, me promène souvent sur le quai du canal. Faut vous dire que j'aime à prendre l'air. »«
Oui, mais il y a 3 mois, vous retiriez une petite fille de l'eau, je me rappelle. »«
Ah ben, moi aussi, j'ai même failli rester sous l'eau. »«
Vous opérez trop de sauvetage, pilleur, pour qu'il n'y ait pas là quelque chose de louche. »«
J'ai pas confiance, quoi. »«
Pas confiance, non. »
« Ben, la preuve que vous êtes dans le vrai, monsieur le commissaire, » dit un agent de police qui venait d'entrer, « c'est que j'ai là 2 particuliers qui, justement, ont assisté à la scène. Ils étaient en train de décharger un bateau et ils affirment avoir vu le rabouilleur, oh, ils le connaissent, pousser le petit garçon, le jeter à l'eau, puis aller le retirer. »
« Afin de pouvoir ensuite réclamer la prime, acheva le commissaire. »
« C'est cela même, brigadier, appelez donc ces 2 témoins. »
Ceux-ci, introduits sur le champ, confirmèrent de point en point le récit du brigadier.
« Vous entendez, Jupillard ? C'est donc pas 25 francs que vous allez toucher, c'est autre chose. Je vous garde, vous vous expliquerez devant la justice.
Reste à savoir, à présent, ajouta le commissaire, si ce gamin n'est pas votre complice. »
« Oh, je ne garantis rien. Vous faisiez peut-être 2 moitiés ensemble. »
Mais le magistrat ne tarda pas à être édifié sur la complète innocence de Guillaume.
« Oh non, le pauvre petit ne faisait pas 2 moitiés avec ce sacripant. Il n'avait avec lui aucune relation, ne l'avait jamais vu.
« J'allais à l'hôpital chercher maman, je ne savais pas quelle rue prendre. »
Un sergent de ville apporta à Guillaume ses vêtements qu'on avait étalés devant le feu. Il se rhabilla.
« Tu es libre, mon enfant, » lui dit le commissaire. « Et comme tu connais pas Paris, je vais te faire mettre sur la voie. »
Lorsque Guillaume arriva à l'hôpital et s'enquit de sa mère, Madame Menaucourt,
Nébroise Louise Anna de Bar-le-Duc Meuse, » fit l'employé.
« Oui, monsieur. »«
Décédé avant-hier. »«